Attention, ok, 1, 2, 3.
Anne-Lyne et Monsieur.
Une émission de Anne-Lyne et Monsieur.
Ok. Bah, mais non, mais attends, bah, comment on fait? Parce que là, on n'a pas prévu de musique, ni rien.
Bon, on se dit. Ouais, on se dit ce qu'on veut, quoi.
Anne-Lyne et Monsieur.
Une émission de Pierre. Anne-Lyne et Monsieur.
Et Madame.
Un mardi sur deux sur Jet FM
91.2
et toujours
en direct.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Jet FM, il est 22h30 et vous écoutez maintenant l'émission Anne-Lyne et Monsieur.
Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Bienvenue dans notre quatrième émission de Anne-Lyne et Monsieur. Ce soir, c'est Pierre et Madame, car c'est moi qui cause et Pierre qui bidouille. Pour rappel, le principe de l'émission, trois mots, une histoire parfois cohérente. À partir de ces trois mots, des sons improvisés, et c'est toujours en direct avec les aléas que ça comprend. Aujourd'hui, donc, les trois mots seront armistice, canari et purée. La dernière fois, Pierre a utilisé des mots compliqués et en latin. Et il vous a aussi parlé de sa grand-mère. Moi, je me rends compte qu'avec ces trois mots, je peux aussi vous parler de ma grand-mère Odette. Cette émission pourrait donc s'appeler 13 ou 14 choses que je sais d'elle ou l'inventaire d'Odette. En 1, le Berry. Je me souviens qu'on l'appelait Nai Nai. Transcription maladroite de Nai Nai, qui en chinois veut dire la grand-mère du côté paternel en Chine. Mais de chinois, elle n'avait rien, car Néné, avant d'être Néné, c'est Odette Bavouzet, une fille de paysan berrichon, venue tout droit de la génitaire qui n'est pas loin de la Châtre, qui n'est pas loin de Châteauroux, où est né Gérard Depardieu, par exemple.
Thank you.
en deux. Paris. Je sais qu'elle est venue de Paris, jeune veuve, son enfant de 5 ans, mon père donc, sous le bras, et qu'elle travaillait chez Gallimard comme secrétaire. Jacques. Jacques, c'est son mari. Le père, mon grand-père donc. Il s'appelait Jacques. Je sais qu'il s'appelait Jacques, qu'il avait de petites mains, de petites lunettes, pardon, et peu d'humour. Ses plus grandes caractéristiques à lui, donc, sont d'être mort vite et de m'avoir donné ce nom. Armistice. J'ai longtemps cru que Jacques était mort à la guerre. Mais je n'arrivais pas à comprendre de quelle guerre il pouvait s'agir, vu que c'était vers 1957, si mes calculs sont bons. Je sais juste qu'elle, Odette, ma grand-mère, de la guerre, elle me racontait une chose. C'est qu'il faisait si froid qu'elle en avait eu les doigts de pied gelés. Je trouvais ça parfaitement inconcevable. Comme cinquième étage. Néné, dans ma mémoire, c'est beaucoup son appartement. C'est un petit deux pièces, deux chambres de bonne reliées, sous les toits, au cinquième étage d'un immeuble parisien. Elle y vivait avec mon père, puis toute seule quand il est parti, jeune adulte. Jusqu'à la fin de sa vie, chaque jour, elle a monté, redescendu, remonté, redescendu, remonté, redescendu, ce petit escalier étroit.
Thank you.
6. Cuisine. Passons la porte d'entrée. Sur la gauche, les portes d'un placard en accordéon, très années 70. On pense à un placard à manteaux. On l'ouvre, on découvre une petite cuisine, toute petite, avec des plaques de cuisine, de cuisson électrique, un petit évier. Pas de frigidaire. Elle pose les commissions sur le rebord de la fenêtre. J'adorais ouvrir et fermer ces portes en accordéon et découvrir cette cuisine, aussi petite et ludique qu'une dinette, quelque chose entre la pièce secrète dont tout le monde rêve et le jouet. Hygiène. Je me souviens qu'il n'y avait pas de salle de bain non plus. Elle se lavait avec un gant dans une petite bassine en plastique rouge. Et je me souviens que dans les toilettes, il y avait un tapis de moquette duveteuse, violet foncé, et une chaînette pour tirer la chasse. Cette ancienne chambre de bonne était meublée et décorée comme un palais baroque. Au centre de la pièce, le lit, très haut, comme celui de la princesse au petit pois. Avec des tentures sur les côtés et des androdons chamarrés si gonflés qu'ils mettaient longtemps, longtemps à s'aplanir quand on s'allageait dessus. Juste devant, une table ronde, recouverte de nappes à grelots, de nappes à dentelle, de bougeoirs, de serviettes en tissu. Tout autour, la pièce était encombrée, jusqu'au moindre centimètre, de mobilier 17e, de vitrines chargées de menus objets délicats et parfaitement inutiles. Argenterie, angelots patients, griffes de lion, petites boîtes gravées, broches brillantes. Du reste, des livres épais, aux tranches bordeaux et aux enluminures dorées. Une cheminée chargée de vases, de cruches émeraudes et d'un miroir doré qui n'agrandissait pas la pièce. Sur les murs, des tableaux de jeunes filles qui songent l'air absent, un livre abandonné dans la main, ou des paysages champêtres avec de tout petits personnages qui portent des chapeaux et des capes. Fenêtre. Il y en avait sûrement une quelque part, coincée entre la cheminée et une vitrine, et donnant sur le grand trou gris d'une arrière-cour parisienne. Mais les lampes, nombreuses, petites, douces, étaient toujours allumées. Au plafond, un lustre, bien sûr, qui reflète nos visages autour de la table. Macaron. La table touche presque le lit donc. On y mange des plats en sauce, des volailles, des gros gâteaux sucrés dans des assiettes chargées de motifs. Le vin coule dans des verres en cristal. Je me demande comment elle pouvait cuisiner tout ça sur ces deux petites plaques électriques d'étudiante. C'est à cette table que j'ai découvert l'os à moelle que je préférais à tout le reste. Avec la pointe du couteau, on évide l'os. La moelle atterrit sur un morceau de pain grillé. On l'assaisonne de quelques grains de gros sel. Et on croque. J'avais toujours le privilège de l'obtenir, cet os, en bonne benjamine choyée. Je me souviens que c'est elle qui m'avait montré comment creuser un cratère dans le centre de la purée pour y faire couler le jus de la viande. Et que cela faisait comme un volcan, un monde dans l'assiette. Je me souviens aussi qu'elle nous emmenait, ma sœur et moi, acheter des macarons à la boutique de macarons luxueuse. On y allait peut-être une fois par mois, le samedi, comme un rituel, acheter ces petits biscuits colorés et ronds que je mangeais le plus lentement possible, en pratiquant de ridicules petites incisions du bout des dents pour que cela dure le plus longtemps possible, parce que c'était vachement mieux que les pains au chocolat. Canaries. Au fond de l'appartement, il y avait donc l'autre petite chambre de bonne. Il fallait monter deux marches recouvertes d'une moquette sombre, violette comme celle des toilettes. Avant, c'était la chambre de papa. Mais elle n'y a jamais mis son lit, même des décennies après son départ du foyer. Il y avait donc ce salon rempli de siècles de vie et d'objets, et cette petite chambre vide, obscure, où l'on allumait rarement la lumière. Au fond, une petite fenêtre. Et devant cette fenêtre, une cage avec dedans un canari, jaune toujours. Jonas, Johnny, Jaunet, Josie. Certains chantaient, d'autres non. Quand ils meurent, on les prend délicatement dans nos mains, on les enroule dans un morceau de sopalin et on va les enterrer au parc. Puis on va quai de la Mégisserie, dans le centre de Paris, et on achète un nouvel oiseau, jaune toujours. Celui-ci parce qu'il a l'œil malin, celui-là parce qu'il a le duvet chargé, celui-là parce qu'il a l'air patibulaire, ou que sais-je. Le dernier oiseau, c'était Suzy. Elle a survécu à notre grand-mère et a échoué sur notre table basse devant la chanifie.
Thank you.
Chalimard. Nainoï, avant tout, je me souviens qu'elle était très belle et qu'elle s'habillait de robes magnifiques. Elle a un chignon de cheveux, toujours teinté en roux, une longue robe violette ponctuée de quelques petits motifs multicolores et discrets. De grands colliers autour de son cou mince, avec des matières bizarres que je touche inlassablement quand je suis assise sur ses genoux. Je me souviens que son parfum, c'était Chalimard, de chez Guerlain. Elle collectionne les petites fioles d'échantillons et je passe des heures à les ouvrir, à les refermer, à les rouvrir et à regarder ses miniatures qui cocottent. Elle faisait faire ses robes sur mesure, des beaux tissus, souples, légers l'été, lourds, empesés l'hiver. Elle avait aussi des fourrures faites avec des vrais animaux morts. Des fourrures lourdes, odorantes, de petites toques et de grandes étoles. Après sa mort, ma mère en a fait stocker quelques-unes dans un garde-meuble. Des années plus tard, on les a retrouvées, tout avait pourri, et le plastique protecteur s'effritait comme du sable entre les doigts. Amour. Je ne lui ai jamais connu d'amoureux, duquel on m'aurait dit, ou du moins d'un homme, où on m'aurait dit « c'est l'amoureux de Néné ». Il y avait plus ou moins souvent des vieux messieurs assis à sa table, distingués, courtois, parlant lentement et l'écoutant religieusement. Mais ils étaient pour moi que des vieux messieurs, dans un décor baroque, essuyant avec de petits gestes tamponnés un restant de sauce gribiche au coin de leur sourire, et m'offrant surtout à l'occasion de grands cadeaux. Pourtant, on a découvert après sa mort quantité de lettres transies d'amants platoniques. Il s'est dit des choses comme « J'ai connu des japonaises, des marocaines, des suédoises, des nigérianes, mais nul n'avait votre élégance. » Ou encore, « Je vous vois arriver au restaurant et j'en suis émue, etc. » Il y a aussi cette histoire de Hassan, le veuf iranien qu'elle aurait retrouvé en Iran. Mais la gouvernante de la famille, farouchement opposée à cette union impossible, l'aurait empoisonnée à petit feu, expliquant qu'elle rentre seule en France et longtemps malade.
Thank you.
14. Encre violette. À ma sœur et moi, elle écrit très souvent des petits mots à l'encre violette sur d'épais papiers crémeux. Elle colle parfois des autocollants fantaisistes, beaucoup de papillons. Quelques mots, je t'embrasse, Lin Lin chérie, ou joyeux anniversaire, avec parfois quelques billets de francs glissés là-dedans, sa cocotelle chalimard. Je me souviens qu'à la fin de sa vie, son écriture chavirait, mais elle continuait de nous écrire. Elle ne voulait plus qu'on la voie, car elle ne voulait pas qu'on la voie laide et mourante. C'est vrai que de tous mes morts, je les revois tous mourants. L'un ressemble à un déporté, l'autre à une momie, l'autre à une petite fille réduite. Elle, je la vois dans sa robe violette, très élégante, pour l'éternité. Je me rends compte que je ne sais pas grand-chose de concret ou de réel d'elle. J'ai des images très précises, comme un film que j'aurais beaucoup regardé, mais je ne sais plus ce qui est vrai. Elle est là, en robe violette, elle m'ouvre la porte et m'enveloppe de chalimard et de viande en sauce. Adresser cette liste, j'aime à la considérer comme une sainte patronne païenne à moi. Après tout, elle m'a donné mon deuxième prénom, un peu vieillot, et je suis née un 13 septembre à cause d'elle, pour satisfaire un symbole qui m'importait peu tant que j'étais dans le ventre de ma mère. Peut-être est-ce la personne de ma famille à qui je voudrais ressembler le plus, parce qu'elle aimait les choses du grand luxe dans de petits espaces, parce qu'il fallait que les décors soient beaux et les instants délicats. Je blasphème et irai sûrement en enfer, mais quelque part je me dis « Dieu merci, Jacques est mort, tôt !» Autrement, elle n'aura probablement pu être que la moitié d'elle-même. Elle considérait un peu la beauté comme la clé de ce monde, ou du moins, comme un moyen comme un autre d'y survivre. Moi, ça m'irait de vieillir dans un décor baroque, entouré de gros livres, de petits oiseaux et de gens très amusants. Pour l'heure, je pense à elle quand je paraisse au lit le lundi matin ou que je décide de me recoucher au milieu de l'après-midi. Je pense aussi à elle quand je dépense de l'argent que je n'ai pas pour des choses jolies et parfaitement inutiles. Je pense à elle quand je me sens libre plutôt que seule, et aussi quand je suis ravie de manger un œuf à la coque car je trouve le coquetier joli. Je pense à elle quand j'accumule, garde, archive de petits objets et de grandes correspondances. Elle était probablement bien moins futule et bien plus exigeante que tout cela, mais tant pis, c'est moi qui suis vivante. Je n'aurai jamais son élégance, mais j'aime à penser que ça lui ferait plaisir de me voir me tartiner de rouge à lèvres parce que le temps est maussade et mon humeur joyeuse.
C'était Aline et Monsieur, notre quatrième émission, et toujours en direct.